Vous rappelez par exemple ce que raconte la Gemara de. C'est donc la Gemara de Avodah Zarah, qu'à la fin des temps, au moment du jugement, les nations du monde réclameront et diront bon, pourquoi Israël est privilégié? En fin de compte, c'est parce qu'il a eu la Torah, alors il a eu le mode d'emploi de l'histoire, alors il a su comment arriver au bout de l'histoire. Et donne-nous la Torah et tu verras bien que nous aussi on réussira. Vous vous rappelez cette page dans Avodah Zarah au début? C'est surtout la suite qui est importante. Alors Dieu décide de faire une petite épreuve. Il leur donnera une mitzvah. Laquelle? La souka. La mitzvah de la souka. Et puis, mais il fera sortir le soleil tellement que ça sera impossible de rester dans la souka. Et alors les goyim partiront de la souka. Et Dieu leur dit, vous voyez bien qu'une petite mitzvah comme la souka, vous n'êtes pas capable de la réaliser. Le commentaire de la Gemara objecte. Mais la halakha est que s'il fait trop chaud, on n'a pas à rester dans la souka. Alors pourquoi Dieu est injuste? Il les met dans une situation qui, même du point de vue de la halakha, il y a une grande différence. Quand Israël sort de la souka parce qu'il fait trop chaud, et que la halakha lui permet de sortir de la souka parce qu'il fait trop chaud, il le sort en regrettant de ne pas pouvoir réaliser la mitzvah. Tandis qu'ils ont claqué la porte. Vous voyez, c'est dans la il y a là un thème important.
Donner des coups de pied sur la
soukha. Oui, c'est ça. Ils ont claqué la porte. Okay. Ça veut dire que les goyim ont refusé la Torah et Israël l'a acceptée. Et quand le thème qu'il y a là est important, le monde est tel que peut-être on ne peut pas rester dans la soukha. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire là? Ou il faut analyser?
Peut-être
on ne peut pas rester dans la soukha. Ça veut dire le monde est tel que peut-être c'est difficile de pratiquer les mitzvot. Qu'on peut plaider le dossier
donc,
des goyim.
Ils ne reviendront jamais.
Attendez, je voudrais expliquer. Seulement, il y a une grande différence. Quand celui qui a accepté le principe de la Torah, dans le monde de la réalité, se trouve dans une situation telle qu'il ne peut pas appliquer une mitzvah parce que c'est le décalage entre la vérité et la réalité est trop grand, eh bien, il le regrette. Vous comprenez? Tandis que ceux qui ont refusé le principe de la Torah, sort de la souka en claquant la porte, ça veut dire c'est dans l'attitude qui est la différence de jugement. Vous comprenez quel est le problème? Ça veut dire que par une toute petite épreuve, comme le dit la Gemara, la mitzvah de la souka, on peut mettre en évidence quelle est la qualité de bonne foi ou de mauvaise foi de cette ta'ana, de cette thèse d'égoïsme. Vous comprenez à quoi je me réfère, c'est que Dieu a proposé la Torah à tous les hommes, à toutes les sociétés. Elles ont toutes refusé en disant c'est impraticable. Il y a un trop grand décalage entre ta loi de vérité et la réalité. Mais ce décalage existe aussi pour Israël qui a cependant accepté la Torah. Et il arrive que pour Israël ce soit difficile aussi de faire coïncider le monde de la vérité et le monde de la réalité. Mais l'attitude est radicalement différente. On ne peut pas, mais quand c'est Israël qui sort de la souka parce qu'il fait trop chaud, alors il le regrette. Tandis que quand c'est les goïms, se frottent les mains. On est quitte de la loi. Vous voyez à peu près la grande. Alors je reviens donc à notre thème. C'est que cette génération a eu le privilège de ce dévoilement de Sof Maaseh Machashavah Tchila. Il y a eu, dans l'événement du Sinaï, par préfiguration, il y a eu connaissance de ce qu'il y aura à la fin des temps. Le passage, on en parle hier, je ne sais pas si mademoiselle dit elle était là, le 7e, le 8e livre, ah, c'est vous, quel. La génération de la sortie d'Égypte est dite dans les textes, Me'en Olamaba. Elle a goûté le monde dans le goût du monde à venir. C'est pourquoi dans la Gemara de Sanhedrin, dans le 11e chapitre, il y a une discussion de savoir si la génération de la sortie d'Égypte aura part ou non au monde à venir. Une des opinions qui est en filigrane dans le texte, c'est pas notre sujet maintenant, c'est qu'elle n'a pas à avoir part dans l'avenir. Au monde à venir, elle l'a déjà eu. Okay? Et parce que cette génération de l'histoire d'Israël a vécu dans l'ordre de la préfiguration d'un commencement ce qu'il y aura à la fin. Voilà pourquoi ces commentaires, se référant à l'événement concret de la rencontre entre l'amour de l'homme pour Dieu et l'amour de Dieu pour l'homme, puis vous vous rappelez, à l'événement du Sinaï. Une fois il y a eu cela, ça nous a été donné et repris. Voilà de quoi il s'agit, et c'est réel. C'est cette trace-là qui est dans la mémoire d'Israël, comme dit le Gaon, quand ils ont entendu le premier commandement, la Ahavat Hashem s'est inscrite irréversiblement, le deuxième commandement, le refus de l'idolâtrie, s'est inscrit irréversiblement. Et nous allons suivre, après ce que le Gaon ajoute pour les autres, une minute. Voilà, donc ce que je veux dire là, la Ishaken Imineshikot Pihu, comme au Sinaï. Pourquoi comme au Sinaï? Encore une fois, parce que là, une fois pour toutes, non, l'expression n'est pas exacte en français, pas une fois pour toutes, mais vous comprenez l'idée, une fois, un peu comme on dit en japonais alsacien, c'est arrivé une fois, qu'on a vu de quoi il s'agit, et puis ensuite, on retombe au bas de la montagne. Et tout le temps de l'histoire, c'est la réascension du Sinaï dans la réalité. Mais ça nous a été donné une fois. Est-ce que c'est suffisamment clair, okay? Et alors ça, elle ne peut dire à lui qu'en lachon nochar. Ishakeni minishukot piyu. Tout le monde peut entendre ce souhait. Voilà ce que je réclame. Là, le dévoilement face à face. Okay? Et puis c'est à lui qu'elle dit, parce que les autres ne savent pas de quoi il s'agit. Dis-nous, nous savons de quoi il s'agit. Titovim dodecha miyaim, ça nous l'avons eu au Sinaï. Vous voyez, c'est clair? C'était un bouche à bouche. Vous vous rappelez de... Quelqu'un voulait poser une question? Oui, quelqu'un.
Quelle est la différence entre Yamot HaMashiach, Olam HaBa, Rit HaYamim de Gan
Eden? Bon.
Tout d'un coup, hein? C'est tout, après, c'est ma question aussi, je vais la poser.
Mais très rapidement, parce que si on ouvre des parenthèses, elles iront très loin. Écoutez, je vous dis simplement les catégories formelles. Olam HaZé, c'est tout le temps de l'histoire qui mène jusqu'au retour des exils, jusqu'à la fin de l'exil. Ça, c'est Olam HaZé. Donc... Non, je ne sais pas. Il y a une discussion importante, si vous voulez. Après tout, si la question vous est urgente, on pourra l'étudier. Une discussion importante à Gemara se trouve deux fois, et dans Brachot et dans Sanhedrin, à quel signe on reconnaît que c'est la fin de Olam HaZé, le commencement de Yemot HaMashiach. Et la discussion entre Rav et Shmuel. En ben Olam HaZé, Yemot HaMashiach, et là, chez nous, Malchuyot Bilvan. Ça peut-être j'explique juste ça. Dans la discussion de Rav et Shmuel, le signe de la différence entre l'histoire que nous appelons histoire de ce monde-ci, d'après toute la convergence des formules, des dominantes formules du texte, Olam HaZé, c'est jusqu'à la fin de la galoute. Et donc, le signe évident, et ce n'est pas des questions de, comment dire, d'horloge dans le détail, c'est le signe évident des événements massifs, c'est qui vous galoute. La fin du temps qui est appelée par les prophètes Olam HaZé, Vehaya, Vehaharit, Hayamim. Et la discussion est que entre le temps de Olam HaZé et le commencement de Yemot HaMashiach, le signe est la fin de Shirvut Malchuyot. Je vais simplement vous faire une petite identification historique claire. Qu'est-ce que c'est la fin de Shirvut Malchuyot? C'est tout simplement ce que nous appelons aujourd'hui dans le vocabulaire contemporain l'impérialisme. Shirvut Malchuyot. Le fait que les empires ont dominé, qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est une nation qui se constitue comme dominatrice des autres. Il y a eu quatre grands empires, suivant l'analyse du temps traditionnel. Il y a plusieurs manières de le montrer, mais si vous voulez, il y a eu l'Égypte, la Perse, la Grèce, Rome. Une des manières de le montrer. Bien, Babel, l'Égypte. C'est-à-dire c'est le temps des grandes civilisations que Israël a traversé dans ses exils. Okay? Alors voilà ce que dit la Gemara. En ben Olam HaZé, Yemot HaMashiach, il y a entre le temps de ce monde-ci, le temps de l'histoire, et ce que nous appelons l'étendue messianique, la charnière, je pourrais dire là, le passage, c'est le signe, c'est Shevut Malchuyot, la fin de l'impérialisme. C'est clair? Et ici les mots nous aident. Shevut Malchuyot, l'impérialisme, c'est la même. Alors on ne peut pas ne pas remarquer de façon massive que pendant 2000 ans, il y a eu le dernier des impérialismes, qui est l'impérialisme de Rome, enfin, ce que nous appelons aujourd'hui l'impérialisme occidental, avec tous ces remous et soubresauts que nous vivons dans les temps immédiatement contemporains de la fin de cette grande histoire de Rome, l'Occident. Eh bien, à qui nous devons d'ailleurs beaucoup de reconnaissance, même si ça a échoué, énormément de valeurs ont passé pour l'avenir à travers l'histoire de l'Occident. Il ne faut pas pousser la gratitude trop loin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a énormément de gens qui se prennent pour des orientaux alors qu'ils ne le sont pas, qui vivent en Occident et qui mettent en question l'Occident alors qu'ils y touchent leurs allocations familiales. En tout cas, revenons au problème. Bon, c'est à la mode, hein. C'est comme ça. On ne peut pas ne pas remarquer que la possibilité du retour des exilés, du kibbutz Galuyot, je parle des juifs, a été donnée au moment de la fin de l'impérialisme occidental. Mais sans entrer dans l'analyse des détails, qui pourrait être très riche, enrichissante, mais la découverte massive du phénomène, la grande date de 1917, qui va déclencher la décolonisation, qui va déclencher la fin des impérialismes, et qui est la date de la déclaration de Balfour, et qui est la date où le premier des grands empires européens, l'Empire britannique, va commencer à s'effondrer. C'est ce que dit la Gemara. « En ben olamazé l'imot ha-mashiach » Cette histoire de la civilisation présente qui commence il y a 2000 ans à Rome, eh bien, elle s'appelle Rolamazé, ce monde-ci, ce temps-ci du monde, et elle s'achève à la fin de cette période, comment dire, mamise, c'est plus fort que ça, mais de l'Occident. C'est l'impérialisme politique officiel qui a cessé, apparemment. Il continue à se développer, il me semble que j'avais parlé cette semaine de ça, je ne sais pas.
J'ai lu.
Oui.
J'ai lu quelque part.
Il y a d'autres impérialistes qui continuent.
Le retour a commencé au moment de l'Inquisition.
Attendez, au moment de l'Inquisition.
C'était le commencement du retour.
Non, c'était un temps possible du retour. Mais les juifs espagnols ont préféré acheter des villas dans le monde entier et pas à Tibériade. Mais vous voyez ce que je veux dire. Merci. Vous voyez vous voyez mieux. Et alors là commence le temps qu'on appelle les mots de la machine. Mais je pense que le premier critère est clair. Hein. Il y a un bouleversement dans la structure politique de l'histoire mondiale et il y a la fin de Shemoun Malchiyot. C'est pas simplement par rapport aux Juifs, par rapport à Israël, c'est, si vous voulez, en gros plan, le recouvrement d'une indépendance politique qui n'avait pas été connue depuis 2000 ans, mais c'est à l'échelle générale. Comme nous avons vu hier, Srout Ador, le mérite de la génération, a fait que ou a fait que pas. C'est pas seulement la génération d'Israël, c'est corollaire à la génération de l'humanité en général. Vous connaissez ce dicton talmudique, paratalmudique, parce que la source est dans le Talmud, mais c'est pas écrit comme ça dans le Talmud, c'est que les goïms ont les juifs qui méritent, et les juifs ont les goïms qui méritent. Okay. Vous connaissez ça? Ça veut dire que c'est corollaire. Et donc, cette génération de l'humanité du temps de la sortie d'Égypte a eu un mérite colossal. Puisque c'est corollairement à cette génération de l'humanité que la génération d'Israël de ce temps-là a pu être la génération du temps de dévoilement, du temps de révélation. Je veux dire la source sur laquelle je me base pour dire cela. Dans la Gemara de Sanhedrin, on nous dit que trois hommes pouvaient recevoir la Torah. C'était et Jacob, Moïse et Ezra. Jacob, la génération n'a pas mérité, et là c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire la génération n'a pas mérité? Il n'y avait pas d'Israël, il y avait Jacob. Ça veut dire c'est l'humanité, c'est clair? Ça veut dire au temps de Jacob, c'était un seuil de barbarie tel que la génération ne pouvait pas mériter un Jacob recevant la Torah, mais Jacob aurait pu être celui qui reçoit la Torah. Torah tzivala nous moshe, morasha kilat yaakov. Et je me réfère un peu à ce que nous avons vu hier. Quelle était la civilisation du temps de Jacob? Laval. On va appeler la race ovine. Là. Et c'est comme ça qu'on dit, les ovins. Bon. Et Moshe. Ezra. Bon, Moshe l'a reçu. Ezra aurait pu recevoir la Torah. Pourquoi il ne l'a pas reçu? Parce que Moïse l'avait déjà reçu. Mais c'est la camaraderie. Donc, le fait que, en ce temps-là, c'est cet Israël-là qui a été l'Israël du temps de la révélation, c'est corollaire au mérite de l'humanité de ce temps. Bon, je pense que c'est suffisamment clair. Et alors, la suite, eh bien, le début du Yemot HaMashiach s'appelle le temps de Mashiach Ben Yosef, du rassemblement des exilés. La fin de Yemot HaMashiach, c'est le temps du Mashiach Ben David, la transfiguration spirituelle. Après, il y a Triat HaMetim, et après, Olam Haba du huitième jour. Et après, c'est une échelle, 9e, 10e, 11e, 12e, jusqu'au 13e jour. Et après, on verra bien à son tour. Acharit HaYamim, c'est la fin de Olam Hazeh. Acharit HaYamim. Ve'haya Be'acharit HaYamim. Si vous voulez faire la gematria de Be'acharit HaYamim, vous aurez une date. Mais comme elle est déjà passée, on peut vous la donner. Mais Ve'haya, c'est un verset d'Isaïe. Ve'haya Be'acharit HaYamim. Et ça arrivera quand? Be'acharit HaYamim. On compte Be'acharit HaYamim, on trouve une date. Bon. Et là, voilà, Acharit HaYamim, c'est la fin de la maison. Comment ainsi monte un Mashiach? Et là, je vais vous dire, je me base surtout sur le Shla. Parce qu'il y a une controverse avec les historiens universitaires de la Kabbalah, que cette distinction entre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ne serait pas connue avant l'enseignement du Rav Kook. Et que c'est le Rav Kook qui aurait, enfin, je mets entre guillemets un mot péjoratif qui est employé par les soi-disant historiens, eh bien, c'est qui aurait institué cette distinction entre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, à laquelle nous sommes très familiers. Alors ceci, ah merci, ceci est radicalement faux. Là, on ne peut pas ne pas savoir que c'est un des thèmes principaux de l'enseignement du Gaon de Vilna lui-même et de son école. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand livre qui s'appelle Hatkufa Gdola Kol Hator. Non? Vous connaissez? Bon, j'en parlerai peut-être un peu demain ou après-demain lorsqu'on verra le verset. Qui m'a demandé? Anitsanim ni Rubaretz Kel. Et Kolator ni Shma Bartzim. C'est le verset du printemps de la sortie des Juifs. C'est le verset des Simanim, si vous voulez, du Anitsanim ni Rubaretz. Et la Zamir Igiar, et Kolator ni Shma Bartzim. C'est le signe que ça commence. Le temps de délivrance. Et en fait, vous avez historiquement, si vous voulez, le premier grand exposé de cette différence entre la notion de Mashiach ben Yosef, qui est le temps du rassemblement des exilés, et Mashiach ben David, dans l'enseignement du Shla. Vous savez qu'est-ce que c'est que le Shla? Le Chot Abrit du Rav Yeshayahu Horovitz, qui s'appelait Halevi. C'était un grand Rav Ashkenaz, originaire de Sfarad d'ailleurs. Et qui s'appelait le Rav Yeshayahu Halevi. On l'a appelé Horowitz. Ça va peut-être vous faire comprendre d'où vient ce nom Horowitz. C'était tout simplement le nom du seigneur hongrois chez qui il vivait comme juif esclave. Horowitz, c'était le nom goy, de la féodalité. Et alors, il a écrit un grand livre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit, les deux tables de l'Alliance. On ne dit jamais Shnei Luchot Abrit pour ne pas faire comme si on veut parler des tables de Moïse. On dit le Shla, Shin Lamed He, mais jamais on dit le Shla comme ça, on dit toujours le Shla Kadosh, pour montrer à quel point ce livre a été considéré en milieu ashkenaz. Et vous avez dans la partie de ce livre, dans la première partie Torah Shebichtav, sur toutes les sidrot qui racontent l'histoire de Joseph, à partir de Vayeshev, alors un exposé magistral de la différence entre le temps de Mashiach ben Yosef, le temps de Mashiach ben David. Et par la suite, tout ceci est développé dans toute la lignée d'enseignement de l'école du Gaon de Vilna, jusque, bien entendu, à l'enseignement du Rav Kook, qui établit une équation très claire et sans bavure. Mashiach ben Yosef, c'est le sionisme politique. Et ceci est démontré magistralement dans l'enseignement du Rav Kook, le père du Rav contemporain. Et je sais très bien, c'est pourquoi je vous le signale, que les historiens universitaires de l'histoire de la Kabbalah font semblant de dire « Ah mais ça, on ne connaît pas, ça, c'est sorti avec les sionistes. Okay » bon. Je refais la parole. Alors, je voudrais quand même en profiter pour corriger peut-être une utilisation de langage qui est qu'on parle de notre temps de Kibbutz Galouyot, alors qu'il faudrait parler de Shivat Zion. Et Kibbutz Galouyot, c'est pour le temps de Mashiach ben David. Et ceci pour recoder avec les sources. Hein? Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire là? Hein? Nous sommes en un temps de Shiva Tzion. Qu'est-ce que c'est Shiva Tzion? Shiva Tzion, c'est les Juifs qui se connaissent comme tels reviennent à Sion. C'est-à-dire, c'est un événement historique analogue avec à Shiva Tzion du temps de Ezra. Okay? Mais Kibbutz Galouyot, des grandes prophéties, c'est au-delà. Parce que ça concerne tous les descendants d'Israël qui ne se connaissent pas comme tels, qui ne se connaissent plus comme ils ne savent plus qu'ils. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Nidachim. Okay? Et nous sommes les descendants de Juda, du royaume de Juda, les Juifs. Et alors nous connaissons comme étant de la maison de Juda. Mais les grandes prophéties du retour des exilés d'Israël, il s'agit de la maison d'Israël, du royaume du Nord perdu. Ça, c'est un thème très qui nous est familier, on n'en parle pas beaucoup, mais énormément de. En nombre, je ne sais pas comment dire, ça fait énormément de millions de consciences. D'hommes vivent chez les Goïms qui sont descendants d'Israël, personne ne le sait, ni même pas eux, mais c'est eux que ce qui vous galoumote concerne. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Oui. Assez analogue, c'est analogue. Mais les Juifs soviétiques se connaissent encore comme Juifs. Je ne parle même pas des Maranes. Les Maranes, c'est encore un cas particulier, frontière. Mais il y a dans le vaste monde.
C'est les 10 tribus, c'est
sûr. Les 10 tribus perdues. Okay. Et pas seulement les 10 tribus perdues, mais ceux qui, à travers les siècles, des 2 tribus et demie juives connues, ont quitté ces tribus juives, soit par la force, soit par l'assimilation, les pogroms qu'ils voudraient, sont chez les goïms et ne savent plus qui ils sont. Et personne, je vous ai raconté peut-être une fois cela. Je m'appelle, quand j'étais enfant au Talmud Torah, on parlait de ces choses-là. Le rabbin nous avait dit, tu sais, sauf, si tu rencontres un goy qui aime les juifs, c'est tellement un miracle que c'est sûrement un descendant d'eux. Et malheureusement, l'histoire montre qu'il y a quelque chose comme ça. Je veux dire, on ne peut pas ne pas être impressionné par le nombre d'identités juives diluées, perdues, en fécondation dans le vaste monde. C'est eux que concerne le Kibbutz Galouyot du deuxième retour. Mais le premier retour, c'est Shiva Tzion qu'il faudrait dire. Or, le langage, l'habitude du langage a fait qu'on dit Kibbutz Galouyot. Simplement, je voulais vous recoder ce point, c'est clair. Donc, le début de Yamot HaMashiach, c'est le temps de Mashiach Ben Yosef, Shiva Tzion. La fin de Yamot HaMashiach, il y a une discussion dans la Gemara, combien ça va durer? Est-ce que ça va durer 40 ans? Est-ce que ça va durer 70 ans? Est-ce que ça va durer un peu plus, un peu moins? C'est-à-dire, à partir du moment où c'est un temps de transition, moins ça dure, c'est mieux. Mais Yamot HaMashiach, c'est finalement pas nécessaire que ça soit beaucoup de temps. Okay? Et après, on arrive aux autres étapes. Alors là, ça nous dépasse, mais simplement, je réponds à votre question. Après, c'est le temps de Mashiach Ben David. Après, c'est le temps de Triat HaMetim, très rapidement. Après, c'est Olam Haba, Ayin Lorat. Vous voyez, là, on est déjà. Vous y êtes. Et après, ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que quand on dit Olam Hazeh, Olam Haba, c'est le commencement d'une échelle. Yelechou, Mechaïl, Yelchaïl. Il y a Olam Haba du 8e jour, il y a Olam Haba du 9e jour, il y a Olam Haba du 10e, du 11e, du 12e, du 13e. Tout ça, c'est l'histoire. Je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas de mots. Tout ça, c'est l'histoire des Shloshesre Midot. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a après? On verra bien. Attends. Mais voilà pourquoi je vous parle de cela. C'est que y a une espèce, quand on réfléchit à ces problèmes, il y a une espèce de crainte implicite. Si on arrive quelque part et c'est fini, c'est la halte, c'est l'aboutissement. Vous avez compris le problème. Il y a actuellement chez les intellectuels israéliens une espèce de discussion autour de la figure d'un très grand savant qui est Shariaou Leibovitch, dont pratiquement personne de normal ne peut partager les idées, mais enfin qui est un grand homme, un grand savant. Et alors lui, il dit la véritable croyance messianique. D'espérer que le Messie vienne, mais que surtout il ne vienne pas. Pourquoi? Parce que s'il vient, on ne l'attend plus. Or, la vertu, le mérite, c'est de l'attendre. On ne croit pas en un Messie qui arrivera. On croit en un Messie qu'on attend. Bon, c'est une thèse pour elle-même. Vous comprenez le problème? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que la vertu, le mérite, la valeur, l'important, c'est la tension vers un idéal. Mais dès que vous prétendez que vous avez atteint l'idéal, cet idéal, c'est une idole. Vous voyez, après, l'analyse qu'on peut faire, et c'est un dossier qu'on peut plaider jusqu'au bout. Mais, de mon point de vue, il s'agit là d'une espèce d'intellectualisme, d'un échec de l'intellectualisme. la tradition hébraïque, c'est pas une idéologie intellectuelle. C'est joli dans une explication messianique, dans un salon de thé, vous comprenez, avec une tasse de thé à la main, et on parle de ces choses-là intellectuellement. Alors ça fait très joli. La vertu, c'est d'attendre. Et alors surtout, il faut attendre quelque chose qui ne viendra pas. Parce que si ça vient, c'est ça l'idolâtrie. Vous voyez à peu près le problème. Bon. Et ça ne trompe personne, mais enfin, ça alimente les conversations. Et en fait, la Gemara a prévu ce genre de problème. À la fin de la Gemara de Brachot, il y a l'enseignement suivant. Tzadikim en lahem menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Les justes n'auront de repos ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Chez Nehemar, d'après un verset qui dit Yelechu mechaïl el chaïl, yerae el elokim betzion, dafka. Le verset dit ils iront de combat en combat jusqu'à ce que se révèle à eux le Dieu de Sion. Alors on a posé la question suivante. Que les tzadikim n'aient pas de repos dans ce monde-ci, nicha. D'accord. Un tzadik ne peut pas se reposer dans ce monde-ci. Mais qu'il n'ait pas de repos dans le monde à venir, pourquoi? Une des réponses possibles, c'est la suivante. Et dans ce monde-ci, l'effort, c'est de passer du conditionnement à la matière, de passer à la libération spirituelle. Mais, si vous voulez, ce monde-ci, c'est, nous passons du néant à la vie matérielle, et l'effort, c'est de passer de la vie matérielle à la vie spirituelle. Or, par définition, et je pense surtout au sens des catégories hébraïques, le repos de la vie de l'esprit, c'est l'ennui. Donc, ça aurait été la récompense du juste de ne pas avoir à se reposer dans le monde de l'esprit. Parce que se reposer dans le monde de l'esprit, ce serait l'enfer. Ça y est, c'est clair. Oui. C'est une des réponses possibles. Et à ce propos, les kabbalistes ont enseigné qu'il ne faut pas croire que le Olam Haba espéré, c'est une tachana sophite. Je ne sais pas comment vous dire une. Comment on dit tachana sophite ? Le terminal. Okay ? Le terminal. C'est le commencement d'une échelle, et voilà jusqu'où ils sont allés à dire, ça c'est l'enseignement du Molcho, qui est le grand élève du Hari, dit ceci. Vous avez entendu parler de l'expression Havuta Kever. Okay ? C'est-à-dire Havut. Ah, non, vous savez pas, comment on peut traduire ça en français ? Havuta Kever.
Hamoud, c'est
le latin. Oui, malheureusement.
Hamoud.
Oui. Ça veut dire, voilà, pour pouvoir entrer dans l'Olam Haba et ne pas être gêné de ce qu'a été l'expérience de l'Olam Hazé, il faut être désintoxiqué des Hanaot de l'Olam Hazé. Il faut être désintoxiqué des jouissances de ce monde-ci pour pouvoir accéder à la jouissance du Olam Haba. C'est clair ? Il dit, mais pour passer des degrés de Olam Haba à degré supérieur, il faudra être désintoxiqué du Olam Haba lui-même pour monter dans le degré précédent. Vous voyez, juste, ça veut dire que vous avez un programme qui ne laisse pas de place à l'ennui. Alors je ne comprends pas Yeshaya Olivovitch. De quoi tu as peur? Ça y est, c'est clair? Bon. Oui. אני לא מבין, למטה מתכוון, נזירות ירדו, למטה מתכוון.
למה
צריך
להשתחרר
מכל
ההנות של העולם הזה?
כדי לא, כדי להנות מהנעת עולם הבא, צריך להשתחרר מכל
זה. זה שעושים המזירות
בהם. לא, לא, זה משהו אחר. זה מה שקוראים בלעז, אסטיזם, אסז, זה משהו אחר. לא, אני פרס כשו בדיר. אחרי למור, לנפש, qui est encombré de toute la mémoire, le nefesh, la personne, qui est encombré de toute la mémoire des jouissances terrestres, doit désintoxiquer sa mémoire. Un peu comme quand, par exemple, ça m'arrivera un jour finalement, quand on veut se désintoxiquer du tabac, eh bien, il faut passer par Hamot HaKever, c'est-à-dire par les arbres de la désintoxication. Je pense que c'est clair. De telle sorte de pouvoir devenir disponible à la jouissance du monde dans sa modalité, monde à venir. C'est clair. Mais voilà pourquoi je vous ai cité. Ça va de soi, c'est évident. C'est pourquoi, les grands tzadikim ont fini leur deuil au bout d'un mois, parce que par courtoisie, on suppose qu'il ne leur faut pas plus qu'un mois pour se désintoxiquer de ce qu'ils ont pu goûter de ce monde-ci. Et puis, certains, c'est 3 mois, certains, 6 mois, 9 mois. Bon, en grosso modo, il faudrait 1 an pour tout le monde, mais par courtoisie, pour tout le monde, on fait que 11 mois. Parce que s'il faut vraiment 12 mois, c'est un rachat. Oui, à peu près, c'est ça. Et alors.